croisée. Chers auditeurs de Forum Opéra et Cobuz, bonjour. Merci de nous rejoindre dans le studio de Cobuz pour ce 14e numéro de Croisée, qui est consacré à l'un des plus beaux espoirs d'un chant français en plein renouveau, la mezzo-soprano Isabelle Druet, qui nous fait la joie de venir nous présenter son premier récital paru chez Aparté, Jardin Nocturne, une anthologie de mélodies françaises qui emprunte son nom à une mélodie de forêt très rarement enregistrée. Le premier qualificatif qui vient à l'esprit pour évoquer votre jeune carrière, c'est atypique. Alors on a dû vous le dire souvent, mais c'est mieux de vous dire atypique que de vous mettre dans des cases, j'imagine. Donc atypique parce que vous n'avez pas suivi le chemin tout tracé qui va d'une maîtrise à un conservatoire ou... comme évidemment on vous associe un peu au répertoire baroque et même beaucoup au centre de musique baroque de Versailles, à la Schola Cantorum de Bâle ou que sais-je encore. Mais parce que votre première passion d'artiste, ce sont les mots, c'est le théâtre, à tel point que vous avez fondé en 2000 à Besançon une compagnie baptisée La Carotte, vous nous en direz un peu plus tout à l'heure. Donc une voix qui est d'abord vectrice de mots, mais vous êtes gagné quand même par le démon du chant. Alors ce démon s'exprime sous différentes manières, pas vraiment classique, une voix inapprivoisée d'abord. Vous chantez de la pop, de la musique traditionnelle, de la chanson française. Mais vous avez envie d'explorer de nouvelles possibilités avec cette voix et vous vous dirigez vers la grande institution, le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, où vous entrez dans la classe d'Isabelle Guillot. Vous en ressortez en 2007, diplôme en poche. C'est la même année où l'ADAMI vous sacre révélation classique. Vous voilà annexé par le monde lyrique. Et puis, comme on aime bien mettre dans des cases, justement, dans ce milieu, et que vos pas vous mènent, par hasard peut-être, dans les lointaines contrées, dans le temps du baroque, vous serez baroqueuse. C'est ainsi qu'on appelle les gens qui se frottent d'un peu trop près à ce répertoire. On croise justement sur votre route William Christie, René Jacobs et puis surtout Vincent Dumestre. Mais quand vous gagnez le deuxième prix du concours Reine-Élisabeth de Belgique, ce n'est pas en baroqueuse puisque dans le programme du concert de la finale, je crois, on croise Mozart, Rossini, Mahler, Duparc, la Didon de Purcell quand même, et puis déjà Carmen. C'est cette même Carmen qui vous accompagne aux Victoires de la Musique en 2010, où vous êtes élu révélation lyrique. Et Carmen, justement, dans laquelle vous venez de faire vos débuts à Metz, puis à Nancy, dans une magnifique production signée Carlos Wagner. Alors, comment est-ce qu'on devient Carmen, ou plutôt, comment est-ce que depuis... le théâtre, on découvre la voix chantée et puis on a envie de passer du spectre très large de la pop, de la musique traditionnelle, etc., au spectre un peu plus étroit peut-être de la musique classique.
Alors, ça s'est fait assez étonnamment et à la fois simplement des rencontres humaines et musicales. J'avais déjà très envie de chanter et je me servais beaucoup de ma voix chantée au moment où je faisais du théâtre. C'était déjà quelque chose qui était très présent et il s'est trouvé que j'ai fait une formation de comédienne. Donc du coup, de fil en aiguille, j'ai monté une compagnie et puis j'ai plutôt arpenté les scènes avec justement des mots à dire plutôt qu'à chanter, en sachant que j'arrivais toujours à caser un peu de musique dans mes spectacles. Et de plus en plus, jusqu'à finalement décider vraiment de privilégier le chant. Et c'est intéressant parce que vous dites que que peut-être le spectre de la musique classique est plus restreint, alors que pour moi, il a ouvert tout à coup. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je mettais un pas, que j'avançais à la découverte de ce répertoire qui n'était pas forcément un répertoire que je connaissais très bien, je me disais, mais c'est incroyable tout ce que j'ai à. Enfin, d'ailleurs, je continue à me le dire à chaque fois que je découvre de nouvelles œuvres, le patrimoine, la richesse de tout ce qu'il y a à explorer. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est des choses qui sont écrites. Qui sont, voilà, on a des traces, et puis après, la démarche est très différente, en fait, de quand on fait de la musique plus de variété, où là, on est complètement dans la création, alors que là, on a vraiment une base qui est écrite et qu'il faut justement essayer de respecter, et à la fois, avec ce qu'on est, avec ce qu'on apporte, avec notre sensibilité, faire que ce sera notre interprétation aussi. Donc ce sera différent de ce que pourraient faire d'autres musiciens et d'autres chanteurs.
Mais parlez-moi un peu de cette compagnie, justement,
Ah
la
oui,
carotte que vous avez
volontiers,
créée.
volontiers. Alors déjà c'est un titre intrigant, n'est-ce
Un
pas,
peu,
hein? Bon,
oui.
la carotte. En fait, quand on a dû donner un nom à cette compagnie au moment de la création, on venait avec une des comédiennes, il y avait cinq membres fondateurs, et on venait donc de faire un stage de théâtre. Dans lequel le comédien nous disait, vous savez, les comédiens et les artistes en général doivent avoir un but pour avancer, doivent avoir un objectif. Cet objectif, c'est comme l'âne qui a une carotte pour avancer. Il faut toujours que vous ayez ça à l'esprit. Et c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois dans le travail avec lui. Et c'était vraiment en plein moment où on était en train de déposer nos statuts d'association, etc. Et on s'est dit, bon, c'est marrant, ça va être un titre qui va interpeller les gens, parce que c'est pas commun, ça n'a pas de rapport avec le théâtre directement. Voilà, et c'est vrai que c'est drôle, parce qu'à chaque fois, les gens disent la carotte.
Et le fait d'avoir fait du théâtre et même aussi du théâtre de rue, je crois, avec cette compagnie,
Oui.
est-ce que ça vous donne un avantage sur vos collègues qui sont passés par des voies plus classiques quand vous vous retrouvez sur scène?
Oui, je crois que c'est évident quand même. Après, chacun a son parcours aussi, et c'est ce qui est aussi intéressant dans ce métier, en tout cas au niveau des chanteurs, parce que souvent c'est des gens qui ont pu, enfin, qui, en tout cas qui ont fait d'autres choses ou qui sont pas forcément comme certains musiciens classiques jouent au niveau du piano, du violon, où souvent il faut vraiment avoir pratiqué très jeune, de façon très intensive, l'instrument. Là, souvent, il y a des gens qui ont des parcours un petit peu plus originaux. Donc moi, c'est peut-être encore un peu plus original que d'autres, mais en tout cas, c'est sûr que l'approche de la scène est en plus d'une scène justement déjà assez alternative et atypique, parce que c'est vrai qu'avec justement la compagnie de la carotte, notre démarche était vraiment, et l'est toujours d'ailleurs, même si moi je suis un peu moins présente du coup, vu que je bouge beaucoup avec mes concerts, l'idée était vraiment d'apporter le spectacle vivant, pas forcément que le théâtre d'ailleurs, mais d'apporter des spectacles là où on ne les attend pas, là où les gens n'ont pas forcément accès à la culture, en tout cas à un spectacle vivant différent. Donc c'était ça, faire des spectacles dans la rue, faire des spectacles dans des salles des fêtes de petits villages, enfin, et du coup tout faire soi-même, fabriquer des projecteurs quand on n'avait encore pas de moyens pour s'en acheter, faire le plan de feu, c'est-à-dire les lumières. Donc c'était très très constructif et très intéressant de savoir comment ça fonctionne, l'envers du décor. Et c'est drôle parce que je le sens aussi quand j'arrive sur un plateau d'opéra, juste de dire aux techniciens,
Ouais.
enfin déjà de les considérer, parce que c'est
Ouais.
aussi parce qu'ils sont là que toute l'équipe est là, que ça marche. Et puis je pense qu'ils sentent dans mon langage, dans ma façon de m'adresser à eux quand je leur demande quelque chose, que je connais aussi un peu le plateau et comment ça fonctionne.
Et pour vous, c'est une question de santé vocale et intellectuelle et physique que de garder un répertoire de musique traditionnelle, de chansons dans ce que vous faites.
En tout cas, c'est vraiment de la musique qui me tient à
Ouais.
cœur. Des gens aussi, et oui, c'est en effet pas forcément de santé vocale, je dirais, parce que c'est plutôt un numéro assez acrobatique de passer de l'un à l'autre. Mais ça m'a jamais trop posé de problème. J'essaie de le faire de manière assez intelligente pour que ce ne soit pas justement destructeur. Mais non, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me nourrit aussi de garder ça, de garder cette richesse et cette ouverture.
Alors justement, richesse et ouverture avec la chanson des Vieux Amants de Jacques Brel que vous interprétiez lors d'un concert donné l'année dernière pour la saison D'une rive à l'autre, oui, d'Ariel Buteau. Christian-Pierre Lamarca est au violoncelle, Stéphane Miret à l'accordéon et Racha Arodaki au piano. Donc, Brel.
Oui, très beau projet.
Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage. 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats de vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien. T'avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore. Tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège. Je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants. Il fallait bien passer le temps. Il faut bien que le corps exulte. Finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais. Plus le temps nous fait tourment. Mais ce n'est pas le pire piège que vivre en paix pour des amants. Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard. Nous protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau. Toujours la tendre guerre. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime.
Vous venez d'entendre mon invitée Isabelle Druet dans la chanson Des Vieux Amants de Jacques Brel, Hors des sentiers battus. Est-ce que justement cette souplesse, entre guillemets, que préserve la pratique de la chanson. Est-ce que ça vous a aidé? Et aussi le fait de devoir garder le texte toujours très clair, est-ce que ça vous a aidé dans votre approche peu académique, finalement, de la musique baroque?
Oui, en tout cas, je crois que ça aide un peu pour tous les répertoires, parce que je trouve que même quand on n'est pas forcément justement dans la mélodie, on a toujours des mots à défendre, du coup, nous les chanteurs, et c'est bien quand non seulement on les entend, mais en plus on les ressent. C'est-à-dire que c'est pas juste d'avoir un texte qui soit compréhensible, mais c'est aussi, ça va de pair avec une interprétation et être toujours c'est-à-dire que parfois on peut entendre des airs des airs d'opéra chantés d'une manière où on se dit mais est-ce qu'il sait vraiment ce qu'il raconte? Bon, de moins en moins je pense, ou en tout cas voilà, c'est vrai qu'il y a vraiment un travail aussi de la scène qui me paraît de plus en plus important dans les formations, et ça c'est quelque chose de très chouette, mais voilà, je crois que c'est important d'être toujours dans la théâtralité, dans l'histoire, quoi.
Et qu'est-ce qui vous a ouvert la porte du monde baroque?
Alors, c'était en fait un stage à Royaumont avec le Poème harmonique qui m'a permis de découvrir Vincent et toute l'équipe. J'avais déjà auparavant, un peu, pas par hasard, mais il s'était trouvé que j'avais passé une audition pour Chœur en scène, qui est toujours d'ailleurs un chœur semi-professionnel et qui monte des spectacles. Et là, d'habitude, ils montent des spectacles avec le chœur, qu'ils mettent en scène ou en espace. Et là, ils avaient eu envie de monter un opéra, donc ils ont monté Didon Aîné. Et ça a été mon premier opéra sur scène. Et j'ai chanté L'Enchanteresse. Donc ça a été déjà un premier rapport avec la musique baroque qui m'a beaucoup plu. Et c'était une très belle expérience. Et ensuite, il y a eu ce stage avec Vincent, du Maistre à Royaumont qui est quand même un endroit exceptionnel et qui est vraiment formidable pour travailler et pour prendre le temps de rencontrer les gens et d'être complètement immergé dans une musique et dans un style. Et ben voilà, il y a eu plusieurs rencontres, en fait, c'est assez drôle parce que j'ai pas spécialement cherché à faire de la musique baroque en sachant que j'adore ça, donc ça me convenait très bien qu'il y ait des rencontres comme ça. Et il y a eu du coup après, pendant le conservatoire, Ambronay, l'académie d'Ambronay qui se faisait cette année-là avec William Christie, ça faisait 10 ans qu'il l'avait pas faite et qu'il l'avait pas animée, enfin je sais pas. Et voilà, suite à ça, évidemment, comme les gens, les autres aussi, chefs, viennent souvent écouter, voir les spectacles de l'académie. Donc il y a eu d'autres propositions. Et de fil en aiguille, comme c'est un milieu assez, quand même, assez petit, oui. Ou en tout cas assez familial. Donc,
Mais vous vous êtes reconnu dans ce répertoire, dans ces sonorités? Parce que, bon, aussi, le Poème harmonique a une identité sonore très précise. Est-ce que vous vous êtes reconnu là-dedans?
Moi, oui, complètement. Dans la manière d'aborder la musique baroque qu'a le poème, je me suis totalement reconnue. C'est quelque chose qui m'a vraiment attirée, justement, parce que je trouvais en écoutant les disques ou en allant écouter les concerts du poème qu'il y avait cette espèce de limpidité, de simplicité, de joie et à la fois d'intensité dans la manière de jouer cette musique qui était pas du tout rébarbative ou un peu coincée que j'avais pu avoir, cette impression que j'avais pu avoir en écoutant d'autres enregistrements. Et voilà, ça m'a beaucoup plu.
Alors, limpidité et joie, ce n'est pas forcément ce qui caractérise le mieux l'extrait que nous allons écouter à présent. C'est l'air Io Moro de Saracini, qui est extrait du disque Firenze 1616 du Poème harmonique, dont la pièce maîtresse est l'Orfeo Dolente de Belli, où vous incarnez d'ailleurs Calliope, la mère d'Orphée. Donc ici, c'est une pièce de Saracini plutôt tragique.
Ah oui, désespérée. Mais c'est ça aussi qui m'a beaucoup plu dans les pièces que choisissait Vincent Dumais, c'est qu'il y a toujours des grands lamenti terribles, avec des dissonances.
On l'écoute, c'est un disque alpha.
Thank you.
C'était un extrait du disque Firenze 1616 du poème harmonique de Vincent Dumestre, interprété par Isabelle Druet. Qu'est-ce qu'on apprend avec des grands chefs comme William Christie, René Jacobs, même dans des petits rôles parfois? Je veux dire, vous interprétez la deuxième dame, par exemple, dans
La
la fille,
troisième
la,
avec,
la
avec
troisième,
René Jacobs.
Pardon,
ouais.
C'est la
Je vais faire la
troisième.
deuxième bientôt. Donc
oui,
c'est vrai
c'est ça qui
que y a
m'a.
les, voilà, j'ai les deux
C'est ça
dans mon.
qui a créé la confusion dans mon esprit. Donc, qu'est-ce qu'on apprend avec ces très grands chefs?
On apprend beaucoup. De toute façon, bon, on peut aussi apprendre beaucoup avec des chefs qui sont peut-être moins connus, mais non, là c'est vraiment deux personnages incroyables, William Christie et René Jacobs, très différents l'un de l'autre, et du coup on apprend aussi des choses différentes, mais ça a été deux très fortes et belles expériences, pas toujours hyper sereine, parce qu'il y a quand même du coup aussi cette espèce de
une exigence,
petite pression,
ouais.
Oui, et puis voilà, on se dit aussi qu'on travaille avec des grands maîtres et qu'il faut tout le temps être à la hauteur, mais ça s'est très bien passé.
Mais qu'est-ce qu'on apprend de spécifique, par exemple avec un Christie, avec un...
Alors, je dirais qu'avec William Christie, ce qui m'a vraiment marqué, c'était une exigence dans la manière de faire les ornements à la française, qui était vraiment très, très précise. Et sur lequel il lâchait jamais, ce qui était très, très bien. Et voilà, ça recadrait aussi, c'est drôle, parce que moi, j'avais pas mal travaillé avec le poème harmonique, avec d'autres ensembles qui, voilà, qui aussi parfois se réapproprient et réinventent, ou en tout cas, voilà, ont eu peut-être une liberté un peu plus... s'autorisent plus de choses avec cette ornementation. Et bon, ben voilà, là, ça a un petit peu resserré les boulons, et c'était intéressant. Et puis il y a une grande intelligence du texte et de bon, il connaît tellement bien cette musique française que c'est un régal, parce que du coup on sent que voilà, on est vraiment, en tout cas avec Lully là, parce que moi j'ai principalement fait du Lully avec lui, c'était très justement très fort d'être dans les mots et dans le texte et dans cette musicalité qui est très particulière. Et avec René Jacobs, là, c'était La Flûte enchantée, Mozart, c'était... C'est-à-dire que il est La Flûte enchantée, c'est drôle. il la connaît sur le bout des doigts, on sent que c'est... À chaque respiration, il savait très bien ce qu'il voulait, sans être un tyran, mais juste, on avait juste envie de faire ce qu'il proposait, parce que c'était fourmillant d'idées originales qui donnaient l'impression de réinventer cette musique qui est déjà sublime, mais qui du coup là, dans l'enregistrement et même bon, sur scène, quand je réécoute, c'est génial, parce qu'il a aussi mis plein de petites choses dans les récitatifs. C'est formidable. Le travail du récit a été...
Ponctuation du piano forte,
ah oui, oui.
Etc.
Oui. Aller avec les percussions, avec tous les effets, ça rend... Bon, c'est vrai que déjà La Flûte enchantée est une œuvre qui est très vivante, mais alors là, tout à coup, elle prend une dimension presque palpable.
Et pour en revenir à Lully, l'expérience Cadmus et Hermione, l'aventure,
oui.
Cadmus et Hermione... qui est un peu fondatrice d'un nouveau courant de reconstitution. Enfin, il y en avait eu quelques-unes avant, mais là, ça marque vraiment un départ assez suivi. Est-ce que c'est contraignant, cette prononciation, cette gestuelle? Et comment est-ce qu'on arrive à trouver sa liberté et à s'approprier ça?
Mais, en fait, c'est drôle parce que quand il y a des contraintes, à l'intérieur de ces contraintes, de toute façon, il y a toujours une marge de liberté. Moi, j'aborde toujours les contraintes musicales, ou en tout cas gestuelles, ou quelles qu'elles soient, de cette manière-là. Un peu comme, ça me rappelle quand j'ai fait ma formation de comédienne, on avait abordé le masque et la commedia dell'arte, et qui est en fait justement... c'est un art qui est plein de contraintes, parce que justement on a un masque sur la tête, il y a des attitudes, il y a des voies à trouver, enfin il y a plein de... Et il y a ce qu'on appelle un canevas à l'intérieur duquel on improvise. Et À chaque fois que je me retrouve dans le baroque, j'ai un petit peu l'impression, dans le baroque en tout cas, dans cette forme-là, avec la gestuelle et la restitution au niveau de la parole, la prononciation, je me sens un petit peu comme dans la commedia. C'est drôle d'être justement, d'avoir ce canevas et ces contraintes, mais à l'intérieur desquelles on a cette flexibilité et ce jeu qu'on peut se réapproprier.
Et le style, justement, ce qu'on décrit de manière un peu générale, le style baroque,
oui.
Bon, après, il y en a plein de bah, différents.
Oui.
Mais comment on... Enfin, je pense qu'il y a une formation d'abord un peu académique, peut-être au conservatoire, vous l'aviez déjà abordée.
Non, 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 moi j'ai pas... En fait, c'est drôle parce que moi, je me considère pas comme une musicienne baroque. Alors, vraiment pas. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les choses, on va dire, visibles, ou en tout cas dans les lieux connus, ou dans les grandes institutions que j'ai faites, étaient baroques. Les premiers enregistrements que j'ai faits étaient baroques. Et du coup, c'est vrai qu'on m'a peut-être mis dans une case baroque, alors que moi, je me suis jamais, de par mon éclectisme en plus, considérée comme une musicienne baroque. Mais après, moi, j'ai appris justement... J'ai commencé principalement avec Vincent Dumestre, donc c'est aussi une manière d'aborder la musique baroque d'une certaine manière. Après, il y a eu Ambronay, où on avait vraiment fait un très beau travail sur du Campra. Donc voilà, j'ai eu plein d'approches et ça s'est fait plutôt en apprenant un peu étape par étape. J'ai pas eu une formation, du coup, comme j'ai pas fait de formation comme le Centre de musique baroque de Versailles ou la classe de musique baroque ancienne du CNR. Ou voilà, j'ai pas eu ce dogmatisme un peu comme ça dans l'enseignement. Moi, au contraire, mon enseignement a plutôt été au CNSM après, qui était plus classique et assez varié.
Et puis on se laisse aller aussi avec l'instinct
oui, oui.
du théâtre, comme dans cet extrait du couronnement de Poppée de Monteverdi, où vous incarnez Ottavia, c'est son premier air, Disprezzata Regina, accompagné au clavecin par Florian Carré et Lucille Boulanger à la viole.
Di Poppea, di Poppea, di Poppea, tu ripeti.
C'était un extrait du Couronnement de Poppée de Monteverdi avec Isabelle Druet dans le rôle d'Ottavia. Comment on aborde ces grandes figures tragiques comme Ottavia, comme Didon?
Oui, alors ça c'est vraiment des rôles qui sont sublimes. Et puis la musique, quoi, c'est un tout. C'est-à-dire que les textes, en tout cas pour Ottavia, le texte à défendre est incroyable quand même, parce que là, dans cette air qu'on vient d'entendre, elle dit, c'est un vrai plaidoyer pour la défense de la femme, qui dit, voilà, nous on donne naissance aux hommes, et puis ensuite finalement on n'a plus notre mot à dire, c'est eux qui sont les seuls maîtres, et c'est pas juste. Donc elle a une espèce comme ça d'envie de se rebeller, et c'est quand on se dit que ça a été écrit au XVIe siècle, c'est assez impressionnant. Et puis la musique de Monteverdi, moi c'est vraiment un compositeur que j'adore, parce que voilà, il y a tous ces frottements qui font que on est comme ça constamment sollicité au niveau
des sentiments. Vous avez eu la chance, je dirais, d'interpréter Clorinde dans Le combattant crête. Alors c'est pas grand chose, mais pour moi il y a une des plus belles phrases de l'histoire de la musique à la fin. Donc ne serait-ce que pour ça, c'est quand même un sacré
c'est
privilège.
C'est terrible. Il y a trois phrases à chanter, elles sont sublimes, et il faut pas les rater. Non, oui, c'est sûr que la mort là, mais cette musique est envoûtante, je trouve. Elle est tellement théâtrale et à la fois tellement musicale. C'est-à-dire que là, on est vraiment tout à coup dans une force qui met le mot et l'action et le sentiment vraiment en exergue. C'est impressionnant.
Et donc, vous avez fait vos débuts scéniques à l'opéra en Enchantresse, dans Didon est né, et maintenant vous êtes Didon.
Oui, après la méchante, je fais la gentille. Oui, c'est un rôle sensationnel également. C'est bon, pareillement, j'adore la musique de Purcell, c'est vraiment... C'est marrant parce qu'il y a vraiment des choses que je retrouve. Les choses que j'aime chez Monteverdi sont aussi celles qui me touchent beaucoup chez Purcell. C'est comme ça, ces espèces de longues lignes où la voix se mélange avec l'accompagnement et où ça crée des espèces de déchirures comme ça, incroyables. Et le rôle est très, aussi très fort à vivre. C'est très condensé et que ça dure une heure. Donc c'est incroyable parce que c'est fulgurant. Voilà, il se passe plein de choses en un très très court temps et à la fin, ça finit tragiquement très vite comme ça.
Et parlez-nous un peu du spectacle que vous reprenez en tournée, là,
oui.
Et qu'on verra bientôt à Paris, au Théâtre de l'Athénée, qui est mis en scène par Bernard Lévy,
voilà.
Et dirigé par Sébastien Desrains avec ses nouveaux caractères. Mmh. Parlez-nous un peu de cette aventure.
Alors, ça a été une aventure... assez particulière parce que c'était la première mise en scène à l'opéra de Bernard Lévy et qui avait envie et qui, je crois, de toute façon, est souvent dans une esthétique théâtrale assez épurée avec des... vraiment un peu dans du théâtre contemporain avec beaucoup de déplacements très lents, très, très simples, très stylisés. Et donc il a appliqué ça à Didon et ça marche bien, surtout que la scénographie est vraiment très belle. On est dans une boîte en polycarbonate de carbone qui laisse passer la lumière. Et donc il y a des effets de lumière qui sont vraiment magnifiques. Et à l'intérieur de ça, justement, cette présence qui est rendue très intense des protagonistes sur scène parce qu'elle est très resserrée. Au niveau de l'action. Donc il y a très peu de déplacements, ils sont toujours très amenés vraiment après, souvent des moments de statique, Donc voilà, c'était une mise en scène qui était parfois assez éprouvante parce que il faut réussir à nourrir justement une scène qui peut faire 5-6 minutes et dans laquelle parfois on bouillonne, on déborde de choses à exprimer et où au contraire la contrainte qu'on en parlait tout à l'heure là est de rester dans quelque chose de très statique. Donc c'est intéressant parce que ça crée une espèce de dualité aussi à l'intérieur de nous, comédiens, chanteurs, de ce qu'on vit et je pense que ça se ressent et ça devient quelque chose de fort, d'intense justement, parce que évidemment après, de toute façon, il faut que ça serve le propos et le personnage. Donc,
qu'est-ce qu'on fait des références quand on aborde ce type de rôle où il y a une discographie absolument pléthorique, les plus grandes s'y sont essayées, est-ce qu'on y pense, est-ce qu'on les
Alors
écoute,
non,
est-ce
hein,
que...
les références quand on est sur le plateau,
Non, mais
on les met
pas forcément sur le
dans...
plateau, mais quand on
Oui,
prépare
avant,
un
oui.
rôle comme ça.
Alors, en préparant, en fait, j'ai écouté pas mal de versions, mais plutôt, pas au moment où j'ai repris la partition, en fait. Plutôt avant, parce que c'est une œuvre que j'aime écouter aussi. Mais non, là, en travaillant, j'ai plutôt, je me suis fait ma version à moi.
Ce qui nous amène à votre version, à
Oui,
vous,
bon, de
de
toute façon.
Carmen.
Ah, Carmen.
Donc on va écouter d'abord Près des remparts de Séville. Ça a été enregistré lors du concert final de concours Reine-Elisabeth de Belgique en 2008. Donc
Voilà.
vous avez gagné le deuxième prix. C'est l'orchestre dirigé par Kazushi Ono. Donc
L'orchestre de la Monnaie.
on va écouter Près des remparts de Séville, et après on parlera un peu de Carmen. C'était Près des remparts de Séville, par la Carmen d'Isabelle Druet. Quand on aborde Carmen si tôt dans la carrière, on a peur ou on y va avec insouciance et...
Non, quand même, on n'y va pas avec insouciance. Bon, moi, c'est un rôle, je pense, comme pas mal de médos qui m'accompagnent. Bon, déjà, c'est assez drôle parce que comme je viens pas forcément justement d'un parcours classique, j'ai pas spécialement écouté beaucoup d'opéra quand j'étais plus jeune. Mais par contre, Carmen, je l'ai beaucoup regardé. J'avais la cassette vidéo.
Et c'était quelle version?
Bah, c'était la version le film,
Le
quoi,
film,
avec Julia
d'accord.
Mijenez. Et puis donc voilà, c'était. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup accompagnée petite. Et c'est des airs que j'ai travaillé assez vite, parce que c'est quand même une musique qui est assez abordable. Après, évidemment, tout le monde peut chanter les airs de Carmen, mais c'est vrai qu'après, il faut quand même leur donner
Pas
une
forcément
consistance.
celui des cartes.
Oui, non, je pensais plutôt à la Habanera ou
Oui.
la Seguedi, mais c'est vrai que c'est. Après, c'est génial quand on commence à se pencher sur la partition en entier. C'est aussi un petit peu vertigineux parce qu'on se dit, ah, ça, oui, ça s'enchaîne à ça. et à ça, et à ça, et à ça. Oh là là, mais elle sort jamais de scène et elle chante tout le temps. Mais du coup, c'est super parce que sur scène, aussi bien Didon, c'est quelque chose qui passe comme ça, très rapidement. C'est très intense. Et c'est assez épuisant d'ailleurs, hein, quand je sors de scène après Didon, il y a Et Carmen, au contraire, c'est très intense aussi, mais sur la durée. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à explorer. Ça passe, c'est toujours, ça fourmille de choses différentes aussi entre les passages hyper dramatiques, justement comme l'ère des cartes, avec des passages complètement musicalement assez légers et jouissifs et festifs. Alors que d'ailleurs les paroles ne le sont pas forcément, mais je pense au douanier, là, au moment où il dépouille les trois douaniers. Alors la musique est complètement, elle est très légère et très, on peut vraiment s'amuser et à la fois vivre des choses très intenses.
Et dans cette Carmen assez atypique finalement que vous proposiez à l'Opéra de Metz, puis à l'Opéra de Nancy, dans une mise en scène de Carlos Wagner, une Carmen assez sauvage et en même temps cérébrale et qui savait ce qu'elle voulait et qui n'y allait pas forcément en usant des charmes habituels de Carmen, c'est-à-dire en mettant ses seins sur la table. quelle est la part du metteur en scène dans cette interprétation et votre part à vous ?
Je crois que le côté... assez racé, enfin racé, enfin ce côté un peu justement vraiment de pas tomber dans la vulgarité, ça c'était quelque chose qui me tenait à cœur de toute façon. Donc c'est vrai que quand j'ai proposé des choses, je suis aussi allée dans quelque chose comme ça de très très tenu, très très aussi flamenco, un peu ce côté vraiment comme ça Espagne du Sud avec cette fierté et en effet cette détermination tout en gardant quand même des moments où pour moi c'est quand même quelqu'un qui a le sens de la fête et qui sait s'amuser, mais qui le fait toujours comme ça.
Dans le geste, même oui, dans le geste, il y avait quelque chose de
Alors,
très calculé.
Ça a été travaillé, par contre, et c'était vraiment une volonté de Carlos Wagner. Et c'était très intéressant parce que du coup, ça corroborait aussi avec ce que j'avais un petit peu, pas forcément consciemment mis en avant, mais en tout cas qui était... qui allait assez dans le sens de ce que je ressentais, c'était le travail avec la chorégraphe, Ana Garcia, qui est donc danseuse de flamenco, et Carlos, qui travaille depuis, je pense, pas mal d'années avec elle, en tout cas qui a fait plusieurs productions avec elle, avait plein de moments où il avait décidé que ce serait chorégraphié. Donc elle prenait le relais et on chorégraphiait justement. Et puis, de toute façon, c'est quelque chose qu'on a essayé de trouver globalement, surtout le spectacle, c'était d'avoir cette espèce d'attitude avec comme ça une cambrure et un côté très, très tenu qu'on retrouvait après du coup dans la danse. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de moments dansés. Mais par contre, il y avait ce travail sur le corps qu'on a essayé de garder sur tout le spectacle et aussi en, évidemment en le faisant un peu évoluer parce qu'à la fin, comme elle devient torero, il y a ce côté qui est encore plus affirmé. Voilà. Donc c'était très très chouette de pouvoir vivre cette transformation et c'était vraiment au niveau du travail scénique et du personnage quelque chose de très fort.
Mais est-ce que vous vous êtes dit en le faisant, j'impose pas mais je propose une vision différente du personnage ?
Non, pas vraiment. Parce que c'est des choses qui se font. Puis en plus quand on est dans le travail, alors nous on cherche des choses, on est allé plus loin, on est revenu aussi un peu, on a dosé. Mais non, j'étais pas dans cette démarche de me dire je vais proposer une Carmen différente ou quoi. Voilà.
Mais bon, peut-être dans une optique qui revient aussi vers un style plus opéra comique que grand opéra. D'ailleurs, moi, la seule chose que j'ai regrettée avec cette production, c'est qu'il n'y ait pas les dialogues parlés finalement.
Oui. Oui, ben voilà, ça s'est trouvé comme ça. Et puis je crois qu'aussi il y avait plusieurs chanteurs étrangers. C'était plus. Voilà. Et finalement, moi, ça ne m'a pas déplu. J'ai trouvé que c'était assez intéressant de rester toujours dans le chant, même quand on passait dans des passages. Enfin, quand on arrivait dans des passages plus. Du coup, dans les récitatifs, quoi.
Votre jardin secret, jardin nocturne, enfin pas si secret que ça d'ailleurs, c'est peut-être la mélodie française, parce qu'on va parler un peu de votre récital paru chez Aparté, jardin nocturne. Alors pourquoi cette thématique ? de la nuit?
Parce que j'avais envie d'être autour d'une thématique, de toute façon. Et puis, il s'est trouvé que... Bon, j'avais aussi envie d'être dans la mélodie française pour ce premier disque en récital. Et voilà, j'ai décidé de partir des nuits d'été. Et assez naturellement, le titre du recueil des nuits d'été m'a inspiré le thème pour le reste du disque, en fait. En sachant que c'était pas forcément hyper nocturne comme cycle. Mais je m'en suis servi pour construire le reste du programme.
Et justement, comment ça se construit un programme? Comment on choisit les pièces? Bien sûr, il y a la thématique, mais comment on choisit les compositeurs? Par exemple, la pièce qu'on va écouter, tiens, on va l'écouter maintenant, c'est le colloque sentimental dans la version de Fernand Alphen, non pas celle de Debussy. Donc, on l'écoute, c'est Johann Rallambandreni au piano. Et on en parle après, c'est un disque aparté. C'était le colloque sentimental de Fernand Alphen, interprété par Isabelle Druet et Johann Rallambandreni au piano. Donc, comment est-ce qu'on choisit les pièces et comment est-ce qu'on choisit Fernand Alphen plutôt que Debussy, par exemple?
Ah ben, je chante beaucoup celui de Debussy, mais assez étonnamment, j'ai chanté, bon, le premier des deux que j'ai chanté était celui d'Alphen. pas commun. En fait, au conservatoire...
C'est atypique.
Oui,
on l'a dit.
Oh, bah ça, c'est étonnant. Non, en fait, il s'est trouvé qu'au conservatoire, j'avais pour professeur assistante de solfège, Catherine Grenier, qui aimait beaucoup m'apporter, ça c'était assez formidable, elle m'apportait souvent des partitions, des choses pas très connues, incongrues, ou en tout cas, voilà, elle aimait beaucoup apporter des choses pour qu'on, en disant ah, j'ai pensé à toi, ça je pense que ça peut t'intéresser. Et un jour, elle m'a ramené les mélodies de Fernand Alphen, qu'elle avait trouvées, alors ça commence à dater un petit peu, je ne sais plus exactement le contexte, mais il me semble que c'était dans le grenier d'une tante éloignée ou quelque chose comme ça, qui était musicienne et qu'elle avait en tout cas réussi à mettre la main sur le recueil des mélodies de Fernand Alphen. Et elle me dit, voilà, je pense qu'il y a vraiment des belles choses et c'est plus édité, donc si tu veux, je te prête le recueil. Et en effet, il y a vraiment des... Je me suis dit, ah, ça c'est... Ça vaut le coup de les chanter et de les faire redécouvrir. Et puis, ne serait-ce que pour moi, parce que j'aimais beaucoup les interpréter, je trouvais très, très belles. Et ce colloque en particulier. Et quand l'idée du disque est arrivée, je me suis aussi dit... J'avais quand même aussi envie de ressortir ces mélodies de l'oubli. Enfin, il y a déjà eu un enregistrement... De fait avec Jeff Cohen et François Leroux, mais c'est vrai que c'est le seul, il n'y a pas très peu de choses d'Alphen. Donc.
Et justement, on parlait de Carmen, on parlait de Didon, mais oui. Se mesurer aux nuits d'été, c'est pas mal non plus pour
oui,
un premier récital.
Oui, 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 ça c'était pas mal aussi. Là par contre, j'ai écouté plein de versions, comme voilà, ça allait rester gravé dans le marbre, sur les disques. C'était au début, hein, je pensais pas. Hein. Franchement, je les ai faites en concert. Je me suis dit bon, voilà. Et puis finalement, je sais pas. L'idée a fait son chemin. J'en ai discuté avec les gens. J'ai, à partir du moment où j'ai commencé à me dire que c'était une éventualité, du coup, j'ai mis les nuits d'été pas mal dans les récitals qui venaient, histoire de justement d'avoir des retours un peu des auditeurs dans cette version piano-chant. Puisqu'en fait, j'ai été assez étonnée de constater qu'il y avait très peu d'enregistrements piano-chant. Là, toutes les versions qu'on connaît, ou que même du coup j'ai essayé d'écouter le maximum de versions, étaient oui, quasiment toujours la version orchestrée, qui est sublime. Et voilà, quand j'ai découvert en lisant les écrits sur Berlioz qu'il avait composé cette version pour le piano et le chant au départ, je me suis dit, ah, mais ça se justifie. Et puis les retours étant très encourageants des gens qui les avaient entendus me disaient, mais oui, c'est différent. Et puis en effet, je crois qu'aussi les gens aimaient cette approche avec vraiment aussi beaucoup de textes et peut-être quelque chose de plus intime. Que permet aussi cette version un peu plus resserrée avec juste le piano.
Le texte, l'intimité, vous avez choisi de ponctuer ce récital avec un récitant,
oui.
Des poèmes qui sont dits par Christian Pajot. Pourquoi, vous qui venez du théâtre, ne pas les avoir dits vous-même?
Alors, j'en dis un sur les trois, je dis le dernier, qui est « Tristesse de la lune » de Baudelaire. Ça a été, voilà, une question. Est-ce que je dis les textes moi-même alors que déjà je chantais? Est-ce que je demandais justement, est-ce que c'était l'occasion de demander à quelqu'un pour qu'il y ait une voix différente? Donc, bah, du coup, j'en dis un, il en dit deux. Et puis, j'aime beaucoup la voix de Christian Pajot, C'est un comédien dont j'apprécie aussi énormément le jeu et l'interprétation et la sensibilité. Du coup, c'était voilà, j'aime bien quand les disques, les concerts sont aussi des moments de rencontre. Et ça permettait d'avoir aussi un éclairage différent. Du coup, je me disais, bon, ben moi, du coup, on m'entend dire les textes en chantant. Et là, on va entendre dire les textes différemment par une voix vraiment, du coup, complètement différente de la mienne.
Et est-ce qu'on aborde l'enregistrement de mélodies autrement que le récital public? Est-ce que ça permet d'aller plus loin dans certaines nuances? Est-ce que vous avez eu le sentiment de que le micro était votre ami et que vous pouviez lui confier des choses plus intimes qu'à un public.
Je suis pas sûre, parce qu'en général, en récital, je me permets pas mal de choses, justement. Et que là, il y avait quand même cette idée de se dire qu'il fallait trouver le juste milieu. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est quand même qu'on a essayé des choses aussi. Parce que du coup, on peut faire plusieurs prises. Donc, on a fait des prises où, justement, on se permettait d'aller vraiment dans des nuances extrêmes, qu'elles soient dans les pianos ou dans les fortés, des choses un petit peu... Et puis, après, en se disant qu'au montage, il fallait choisir les prises qui étaient les plus sensées, quoi, les plus cohérentes. Mais en fait, en récital, c'est vrai que j'expérimente pas mal. Là, il y avait le côté où ça reste, en fait. C'est quand même quelque chose qui reste à l'esprit. Hein.
Donc, il ne faut pas trop en livrer non plus.
Oh, si, après, ça... si, parce que c'était quand même aussi l'idée hein, d'être vraiment dans une... Justement, dans des nuances assez...
Ne serait-ce que par cette thématique
oui,
aussi.
Oui, complètement. Donc si, mais c'est vrai qu'en gardant toujours à l'esprit qu'il ne fallait pas être non plus complètement... voilà, il fallait trouver le juste, la chose la plus juste, qui soit la plus simple et limpide et qui nous parle... Enfin que voilà, qu'au bout de la... D'ailleurs c'est drôle parce que j'ai été énormément présente pendant le montage et avec l'ingénieur du son, on écoutait beaucoup avec Céline Granger, on réécoutait et c'est vrai qu'elle disait... quand on hésitait sur deux prises, justement, quelque chose peut-être de plus original et quelque chose de plus simple, ou voilà, elle disait, ça, on sera à l'usure. C'est-à-dire qu'il faut l'écouter plein de fois, et si au bout d'un moment, on se dit, non, finalement, là... Donc, c'est assez drôle, cette démarche de se dire, le récital, c'est dans l'instant, on se permet les choses, mais c'est passé, il n'y a pas de trace. Et le disque, au contraire, il faut que ce qu'on choisit... ne pas lasser, ne pas toujours sembler nouveau et juste comme à la première écoute. C'est pas évident.
Alors ce parcours atypique sur lequel on a levé quelques voiles pendant cette petite heure vous mène la saison prochaine sur la scène de l'Opéra Bastille. Oui. Vous allez interpréter le page de Salomé. Alors là, vous entrez vraiment par la grande porte dans le monde de l'opéra. Bon, il y a déjà eu Carmen, évidemment, mais vous, quels sont vos rêves en matière de grands rôles lyriques ?
Alors, il y a évidemment les personnages des opéras de Rossini, parce qu'en plus, c'est une vocalité que j'aime beaucoup, que c'est une musique très, très vivante et assez... assez périlleuse quand même à exécuter, mais qui est pleine, enfin c'est vraiment génial à chanter. Donc ça, j'ai la chance d'avoir pas mal de premiers rôles à chanter chez Rossini, parce qu'il a beaucoup écrit pour les mezzo coloratour. Donc voilà, Cenerentola, Rosine, l'Italienne Alger, enfin il y en a. Chez Handel aussi, il y a plein de magnifiques rôles à défendre, plutôt des hommes d'ailleurs, entre Ariodante et Ruggiero, enfin il y a de très belles choses. Chez Mozart évidemment, parce qu'il y a entre la musique et la scène, les chérubins, Dorabella, chez Strauss. Donc là, je vais être le page dans Salomé, mais c'est vrai qu'il y a aussi de beaux personnages entre le componiste et Ottaviani, Monteverdi. Enfin, il y a plein de magnifiques rôles à aller explorer.
Et il fallait quand même oser peut-être vous confier Carmen, mais c'est un peu la chance aussi de montrer... au public, au directeur de théâtre, que vous savez faire autre chose que cette case, peut-être, dans laquelle on vous avait mise, qui était le baroque.
Mais alors ça, c'est drôle, là, de toujours vouloir me mettre dans cette case du baroque. Parce que justement, avec le concours, avec Elisabeth, avec tous les récitals que je fais...
Mais vous l'avez dit tout à l'heure, par rapport à ce que vous faites dans les grandes institutions... Ouais. Il y a
oui, quand oui, même voilà. Ça, mais après, si les gens veulent... Enfin, je pense... Les directeurs d'opéra, de toute façon, ils m'entendent dans d'autres choses. Enfin, je veux dire, on n'arrive pas là par hasard non plus, évidemment. Plus on a pu faire de choses dans les grandes scènes, et plus on a aussi... C'est validé, quoi. On a le tampon, c'est bon, elle est capable d'aller sur les grandes scènes. Mais ils savent aussi, en général, ils s'intéressent aussi à ce qu'on a... Puis ils nous entendent en audition, dans d'autres choses. Mais c'est vrai que je me sens... Voilà, je pense que les rôles, la musique romantique et classique, c'est vraiment, ça convient très bien aussi à ma voix et je me sens pas du tout enfermée dans un répertoire baroque, malheur, pas du tout.
Bon, merci. Donc on va ouvrir grand les portes et les oreilles. Merci Isabelle Druet d'avoir été
merci
avec nous. Alors on vous retrouve beaucoup dans les prochains mois à l'Opéra d'Avignon du 17 au 21 avril dans la deuxième dame de la Flûte enchantée sous la direction de Laurence Equilbet et dans une mise en scène de Robert Fortune. La Didon est née de Purcell fera une halte au Théâtre de l'Athénée à Paris du 5 au 8 mai. Donc c'est avec les nouveaux caractères de Sébastien Dérin et dans une mise en scène de Bernard Lévy que vous reprenez ensuite le 10 mai à Angoulême, au Théâtre d'Angoulême, le 12 mai à la Coursive, à La Rochelle. Vous serez de nouveau au Théâtre de l'Athénée le 21 mai dans un récital qui n'a rien à voir avec le disque qui a pour titre « Complaintes et berceuses
oui, »
dans un cycle de la Fondation Royaumont. Il y aura du Parc, du Zemlinski, du Chausson, du Britten et du Mont Salvage. Avec Anne Le Bozec au piano. Et enfin, le 24 mai, vous serez au Théâtre des Champs-Élysées pour le Songe d'une nuit d'été de Mendelssohn avec l'ensemble orchestral de Paris, Patricia Petitbon, sous la direction du chef principal invité de cet ensemble, Joseph Swensen. Etc. J'ai
envie de dire. Je dirais juste que le 31 mai, on fait un concert au Théâtre de Vélizy et que justement, ce sera la formation et le programme C'est beau l'amour que nous avions donné justement dans le cadre d'une rive à l'autre avec Ariel Buteau.
Eh bien, on s'y précipite.
On a la joie de se retrouver pour faire ce programme un petit peu original.
Et puis, bien sûr, on peut écouter Isabelle Druet dans son disque paru chez Aparté. Jardin nocturne, donc avec Johan Ralland-Bondreni et Christian Pajot en récitant. Ce sont des mélodies de Berlioz, évidemment. Chausson, Forêt, Reynaldo Hahn, Fernand Alphen, Massenet, Poulenc, j'en oublie peut-être, je ne sais pas. Et c'est un disque qui est disponible en téléchargement sur Qobuz en Studio Masters. Voilà. Merci, encore une fois, d'être venu jusqu'ici. Merci à Francis Malek qui captait cette émission. Et nous quittons avec un extrait des Nuits d'été de Berlioz, Le spectre de la rose. À bientôt.